Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. L'école à la radio, troisième jour de notre nouvelle formule. Et il y a urgence, parce que jamais la déscolarisation n'a été aussi massive dans le monde. Rien que pour l'Afrique de l'Ouest, plus de 100 millions d'enfants ne vont plus à l'école à cause de la pandémie. Alors, bien sûr, pour fabriquer cette émission tous les jours, on apprend en même temps que vous, 7 milliards de voisins, l'école à la radio. Depuis lundi, donc, des enseignants proposent des activités sur des savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, pour vos enfants en école primaire. Ces enseignants n'ont jamais enseigné à la radio. Ils sont très motivés pour que les élèves continuent à apprendre. Et si vous écoutez l'émission avec vos enfants, vous verrez que même si vous n'êtes pas beaucoup allé à l'école, vous pouvez être aux côtés de votre enfant, vous intéresser à ce qu'il apprend. Aujourd'hui, on va continuer à distinguer les sons pour mieux lire, mieux écrire. Et puis, il y aura aussi une histoire. Yen et le festin du roi, c'est un conte du Mali. Et puis une nouvelle chronique sur les reines d'Afrique par Sylvia Serbin. Chaque semaine, elle nous fait découvrir des héroïnes mal connues de l'histoire du continent. Aujourd'hui, il s'agira des Amazones, de l'ancien royaume du Dahomey, l'actuel Bénin. Derrière ce micro, comme chaque jour, dans le studio de RFI, il y a Hugo Violas à la technique, mais aussi moi-même derrière le micro. Et puis toute l'équipe qui travaille à distance, Delphine de Dianous, Cécile Lavolo, Romain Dubrac. Et puis bien sûr, on attend vos réactions. Dites-nous au quotidien comment se passe l'école à la maison avec vos enfants. On attend aussi vos questions, vos suggestions. Et puis demandez, pourquoi pas aux plus jeunes, de poster des messages. Attention, uniquement sur WhatsApp. 33 1 84 22 71 71 33 1 84 22 71 71
7 milliards de voisins et la planète sépare.
Et tout de suite, une voisine, une jeune voisine a posté sur WhatsApp. Je crois que c'est la plus jeune auditrice chez nous, 10 ans.
Je m'appelle Elodie Edidia Mélanie, j'ai 10 ans, je suis au CM2, j'appelle du Togo. Plus précisément du moyen mono. Depuis qu'on est à la maison, je ne fais rien. Mais quand papa m'a dit de venir suivre votre première émission de 7 milliards de voisins sur RFI, je suis très contente du compte. Votre émission m'a donné le goût d'apprendre à nouveau. Merci beaucoup à RFI et surtout, coucou à toi, Emmanuel Bassi.
Et coucou à toi, Yedidia. Merci beaucoup pour le message, c'est super sympa. Et les voisins et les voisines, n'oubliez pas d'aller chercher les enfants, parce que pendant que vos enfants vont apprendre à la radio chez nous, chez 7 milliards de voisins, vous pouvez cuisiner, vous pouvez faire autre chose, tout en gardant, bien sûr, une oreille ouverte pour discuter, prolonger l'émission ensuite avec vos enfants, essayer de voir ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont appris, etc. Et ces discussions-là sont très, très importantes avec vos enfants. Vous êtes nombreux en tout cas à nous encourager depuis le début de la semaine. Alors nous aussi, on essaye de s'améliorer chaque jour. Fernemba Ketanjamena au Tchad nous écrit que l'émission va aider à réveiller le réflexe des enfants après plusieurs semaines sans révision. Salimata Sissoko nous dit que les mamans aussi apprennent. Et elle est belle, la chanson « Merci Marie-Christine » signée Salimata. Bonjour Marie-Christine Aubin.
Anis Roma, Emmanuel.
Marie-Christine Aubin, comment vous allez, vous, de votre côté?
Ah ben moi, je vais très bien. Il fait toujours un soleil éblouissant. La température est fraîche, mais tous les arbres fruitiers sont en fleurs.
Mmh. Et alors, vous êtes enseignante, Marie-Christine, et vous avez vu le petit message de Salimata. Tout le monde a bien repéré la petite chanson. Hein.
Oui.
La ritournelle, c'était pour faire la différence entre le poisson et le poison. Quel poison. Vous êtes enseignante en école primaire depuis plus de 30 ans. Et là, vous êtes confinée comme tout le monde, vous êtes au village. Alors avec vous, Marie-Christine, on a vu la lettre S qui pouvait représenter lundi, on a vu ça, qui pouvait représenter deux sons, le son S et le son Z, comme l'abeille. Quel est le programme aujourd'hui, Marie-Christine?
Alors je voudrais poursuivre l'écriture du son S. Donc vous vous souvenez qu'il faut mettre les parenthèses et le petit s en minuscule d'imprimerie. ça représente les oreilles et le son que l'on entend. Mm-hmm. Donc ça, c'est important. Mm.
Et c'est donc, important en plus parce que ce sont ceux, il est extrêmement fréquent dans la langue française et en fait, il se décline de plein de manières différentes. Donc il faut vraiment passer du temps là-dessus.
Oui, mais tout le monde est capable d'y arriver. Donc ce que je propose, c'est qu'on y aille lentement, mais sûrement, parce qu'il est très important, quel que soit le son, de savoir comment il s'écrit. Mm. Donc effectivement, en français, c'est difficile. Il faut bien connaître cette correspondance entre le son que l'on entend et son ou ses écritures, parce que ça permettra de lire correctement et ensuite de pouvoir écrire les mots correctement. C'est ce qu'on appelle l'orthographe. Mmh. Donc ça, c'est un travail de fond pour bien connaître une langue, quelle que soit la langue du monde. Hein. Alors, donc le travail est identique.
Voilà, et c'est vraiment ça la recette pour lire et écrire, hein. Bien comprendre, décoder les sons. On commence donc avec cette fameuse lettre S.
Voilà. Alors lundi, on a vu la lettre S. Toute seule, qui s'écrit au début d'un mot, comme dans sable, au milieu d'un mot, entre une voyelle et une consonne, comme dans mangouste, ou en fin de mot, comme virus. Mmh. Alors, je rappelle aussi que parfois, on voit écrit la lettre S en fin de mot, mais elle peut être muette, cette lettre S. C'est-à-dire qu'on ne va pas la prononcer comme dans le mot bois. Le bois s'écrit B-O-I-S et le S, on ne l'entend pas. On a vu aussi l'écriture avec les deux S. Les deux S au milieu d'un mot entre deux voyelles ou entre les sons on, en, un, wa, ouin, aïe, enfin tous ces sons-là. Par exemple, on l'a vu dans poisson, dans embrasser. On peut aussi trouver deux S à la fin d'un mot, comme dans motocross, stress.
Oui, le stress, on en parle beaucoup. Et effectivement, il n'y a pas de E à la fin. Hein. Le stress, ça se termine avec les deux S. Alors, il faut qu'on arrive quand même là sur la lettre C, parce qu'on n'a pas du tout parlé lundi. Ça peut faire exactement le même son que le S.
Oui.
Allez-y, Marie-Christine.
Alors, la lettre C... Elle fait, elle aussi, deux sons, hein. C'est compliqué, mais là, on verra ça plus tard. Aujourd'hui, on va voir la lettre C qui fait le son se devant les voyelles E, I et Y. Alors, par exemple, ça fait se devant le E dans cercle, morceau. La lettre C fait le son se devant I.
Oui, comme dans cigarette.
Oui. Ciment.
Oui, le ciment.
Voilà.
Et devant la lettre Y, alors moi je pense à bicyclette.
Oui, moi je pense à cybernaute.
Mmh. Et puis alors, il y a un autre C qui est quand même, on ne sait pas d'où il sort celui-là, il a une petite cédille en dessous, hein, une espèce de petite queue sous le C. Quand est-ce qu'on sait quand il faut utiliser le C cédille, Marie-Christine?
Alors, d'abord la cédille, on dessine la lettre C et sous la lettre C, là, accrochée dessous, on va descendre un petit bâton. Et on va faire un demi-rond dont la bouche est ouverte vers la gauche.
Mmh. La cédille a la bouche ouverte vers la gauche. Je retiens bien
ça.
D'accord.
Ah oui. Il va attraper la mouche.
Et dans quel cas...
Il va attraper la mouche.
C'est ça, il va attraper la mouche, la cédille. Et dans quel cas on met cette bouche ouverte?
Voilà, on le met pour devant les voyelles A, O, U. Et tous les groupes, comme les sons en, comme on, comme un, pour avoir, si vous voulez, le son se.
Voilà. Donc ça, faut bien retenir ça, mais on va faire un petit exercice, un petit jeu ensuite, hein, pour s'entraîner.
Oui, plus tard.
On va voir un dernier cas où on a toujours ce son se Mais alors là, ça se complique. On met carrément les deux lettres, le S et le C côte à côte, et ça fait toujours le même son.
Ça fait le son S.
Ouais.
Mais alors là, on va voir un petit truc, parce que, vous savez, le mot scier,
ouais,
ça s'écrit S-C-I-E-R. Et lorsqu'on scie, ça met beaucoup
ah ouais,
de temps.
Ouais. C'est long, hein, c'est long de scier du bois, ça fait mal dans les bras, et effectivement, on se dit que ça se terminera jamais.
Oui, et alors on entend quand la scie coupe le bois, on entend.
Ah, vous faites très bien la scie au téléphone. Ça marche très bien, Marie-Christine. Ok, alors, avant qu'on arrive à un exercice d'application, un petit jeu pour peut-être pour se délasser toujours avec ces sons
Ah oui, je vais proposer un virelangue.
Un virelangue, oui.
Alors, un virelangue, c'est une phrase amusante,
oui,
qui sert à prononcer des mots contenant des sons proches, sans se tromper.
Oui.
Alors, il faut répéter cette phrase de plus en plus vite. Et patatras, nous finissons tous par vous emmêler la langue. C'est pour ça que ça s'appelle un virelangue, parce que c'est très difficile à prononcer.
Ouais. On a la langue qui va devenir dingue dans la bouche. Alors, il y en a un qui est très connu. Hein.
Oui, un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Ça, c'est difficile. Hein.
Ouais. Moi, je me suis entraînée un peu, hein, parce que comme vous me les avez envoyés, bon, un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Faut le dire tranquillement, pas se stresser. Mais alors, qu'est-ce qu'on envoie des S hein, dans cette phrase? C'est dingue. Hein.
Bah oui, on a deux S dans chasseur. On a un S au début de sachant. On a deux S dans chasser. On a un S en début de savoir. On a à nouveau deux S dans chasser. Sans, on a un S, un S en début. Et on a un S à la fin qu'on n'entend pas.
Ouais.
Son, on a un S en début.
Ouais. Alors, on va en dire un deuxième, parce qu'après, moi, j'en ai un autre à vous proposer que nous a envoyé notre petite voisine Yedidia. Mais ce n'est pas avec le son S. Mais allez-y, Marie-Christine, on en propose un deuxième, un virelangue avec le son SE.
Voilà. 5 chiens chassent 6 chats.
Ah, il n'est pas évident. Hein. 5 chiens chassent 6 chats. Alors là aussi, il y a beaucoup de sons SE, mais il y a aussi la lettre C pour le chiffre 5. Hein. Et
oui,
puis toujours avec le mot chasser, bon, bah, il y a les deux S. Il y a un X qu'on n'entend pas à la fin du 6, hein, mais ça c'est encore une autre histoire. Eh bien, Yedidia...
C'est une autre écriture,
ouais,
c'est une autre écriture du sens SE.
Alors, ce qui est drôle, c'est que notre voisine Yedidia, qui est au Togo, qui nous a posté le message qu'on a entendu tout à l'heure, elle vient de nous envoyer un virelangue. Mais alors, il n'est pas avec le son SE, hein, je suis désolée Marie-Christine.
Mais c'est pas grave, hein.
Elle a peut-être une séquence d'avance. Et il est un peu osé, c'est avec le son T. C'est pas beau, mais tentant de tenter, de tâter les tétons de tata quand tonton n'est pas là. C'est pas mal ça quand même. Hein,
ah, il faut le redire lentement parce que je pense que j'en ai perdu la moitié là.
Ah oui, ouais, bah, y a beaucoup de thé, mais non.
Tentante, tonton.
C'est pas beau, mais tentant de tenter, de tâter les tétons de tata quand tonton n'est pas là, bien sûr. Voilà, bon, à ne pas faire hein, comme conseil, évidemment. Marie-Christine, on enchaîne alors avec un vrai petit exercice. Je pense que les enfants ont tous du papier, des crayons, je ne l'ai pas redit au début, ou une ardoise, hein, mais il faut que l'ardoise ça soit assez grande parce qu'on va faire 5 colonnes pour tenter de bien identifier toujours ces fameux sons avec 5 colonnes. Donc, une colonne, on va mettre le S. C'est ça, Marie-Christine?
Oui, le S, ça, ce sont les 5. On va travailler les cinq premières écritures du son SE. Et voilà. Donc, alors, dans la première case, on écrit la lettre S. Je rappelle qu'elle s'écrit en début, à la fin d'un mot et au milieu entre une voyelle et une consonne, comme dans sable, virus, mangouste.
Une deuxième colonne où il va y avoir les deux S.
Voilà, les deux S pour avoir le son se entre deux voyelles.
Donc, vous écrivez bien les deux S en haut de la deuxième colonne, hein, on est d'accord.
Et alors,
oui, vous voulez
comme exemple, je voulais rappeler des exemples. Embrasser, poisson.
Oui. Et une troisième colonne où on écrit en haut de la colonne la lettre C.
Qui vient devant le E, le I et le Y. Comme dans cercle, comme dans cigarette, comme dans bicyclette.
Et puis, il y a une quatrième colonne où on va mettre en haut le C cédille.
Voilà. Donc, ça vient devant le A, le O, le U.
Oui. Voilà, dans... vraiment, là, c'est vraiment clair. Hein. Maintenant, le C cédille, moi, je n'avais jamais réalisé ça. C'est A, O, U. Point barre. Hein. Voilà.
Voilà. Et tous les sons complexes qui s'écrivent comme les en, les oua, les... Alors, qu'est-ce que j'ai dit ? Les on, les en, les oua. Enfin, plus, tous ces sons complexes. Voilà.
Alors, on est bien dans la quatrième colonne et la cinquième colonne. On écrit en haut de la cinquième colonne. Les enfants, j'espère que vous vous suivez avec le papier. La cinquième colonne en haut, on écrit le SC qui fait toujours, hein, comme vous nous l'avez expliqué, Marie-Christine, qui fait toujours ce son S pour scier du bois, que c'est tellement dur et tellement long de scier du bois.
Oui, Emmanuel.
Voilà.
Par exemple, scion du bois pour la mer, scion. Sion du bois pour la mère Nicolas qui a cassé ses sabots en mille morceaux.
Voilà, c'est bien gravé.
Les morceaux.
C'est bien gravé dans le disque dur pour le SC. Et donc maintenant, vous allez nous proposer une liste de mots que vous avez numérotés et il faut mettre les bons numéros dans les colonnes. Donc on est bien d'accord, on a cinq colonnes. Une colonne pour le S, une colonne pour les deux S, une colonne pour le C, une colonne pour le CCDI, une colonne pour le SC. Et on commence avec un premier mot.
Voilà, parce qu'on va juste écrire le chiffre du mot parce que c'est trop difficile et trop long de les écrire. Alors, mot numéro 1. Garçon.
Alors, le numéro 1, vous allez le mettre dans quelle colonne ? Garçon, c'est le numéro 1. Vous écrivez numéro 1, 1, le chiffre 1, dans la colonne qui correspond à la bonne orthographe, à la bonne utilisation du son S. Un deuxième mot, numéro 2.
Poisson.
Voilà, à vous d'écrire le numéro 2 dans la bonne colonne qui correspond à la bonne lettre, à la bonne orthographe.
Mot numéro 3, sable.
Le numéro 3, bon là c'est assez facile. Hein. Le numéro 3, il se met assez vite dans une colonne. On passe au mot numéro 4.
Le 4, scie.
Alors, où est-ce qu'on va mettre du 4 ? Dans quelle colonne on va mettre du 4 ? Ça y est, vous y êtes. On va passer au numéro 5.
Bicyclette.
Et donc, vous écrivez le chiffre 5 qui correspond à la bonne orthographe dans la bonne colonne pour bicyclette. Le chiffre, le mot numéro 6.
Casquette.
Casquette. Donc le 6 va se positionner dans une colonne. On passe au mot numéro 7.
Piscine.
Ah, la piscine, c'est un endroit où on a envie de rester longtemps, comme quand on scie du bois. Parce qu'on se délasse cette fois-ci, on est bien dans la piscine.
Ah oui.
Donc on y reste et ça dure longtemps, donc ça fait piscine.
Voilà.
Et
il
ne
faut
ensuite...
pas souffler comme ça, Emmanuel.
Ah oui, il ne faut pas souffler.
Non, il ne faut pas souffler.
Non, moi, j'aimerais bien qu'ils réussissent quand même toutes les colonnes. Hein. Alors, on est au numéro 8 maintenant.
Le 8, c'est le cercle.
Voilà. Le numéro 8, où est-ce que vous le mettez pour le cercle? Et ensuite, on passe au numéro 9.
Embrasser.
Numéro 9.
Ça, on le fait souvent, hein,
ouais,
embrasser.
Ouais, plus maintenant. Hein. Non, c'est fini,
non,
ça.
Non, en ce moment, on n'a pas le droit. Hein.
Donc, oh, le numéro 9, bah oui, mais c'est bon, ça reviendra. Hein. Numéro 9, il va se placer dans la bonne colonne. Attention, regardez bien, vous avez vos 5 colonnes.
Français.
Ça, c'est le numéro 10.
Hein. Français.
Numéro 10, français. Français, la nationalité, alors français...
Ou la langue,
voilà,
le français.
Donc le numéro 10. Et donc, normalement, vous avez rempli toutes vos colonnes. Il y a forcément des numéros dans toutes les colonnes. Et si vous avez tout bon, vous avez deux numéros par colonne. C'est ça, Marie-Christine, hein ?
Oui, c'est ça.
Alors, regardez vos colonnes, les enfants. Si vous avez deux numéros par colonne, bah, vous avez peut-être tout bon. Mais encore, faut-il avoir mis les bons numéros ?
Bon, alors on va corriger maintenant.
Allez-y, Marie-Christine.
Alors, dans la case avec la lettre S, il y a les mots 3 et 6.
C'est ça, le sable et la casquette. Oui,
absolument. Maintenant, dans la case avec les deux S, il y a les mots 2 et 9.
Le poisson. Le 2 et le 9 pour embrasser, même si on n'embrasse plus aujourd'hui. Dans la troisième colonne, la colonne du C.
Mmh. Devant le E, le I et le Y, il y a les mots 5 et 8.
J'y suis.
Bicyclette, cercle.
C'est ça, vous avez 5 et 8 dans cette colonne du C. Ensuite, la colonne du C, cédille.
Voilà, devant le A, le O, le U, il y a les mots 1 et 10.
Le 1 pour garçon et le 10 pour français. Et dans la dernière colonne, vous avez aussi deux chiffres pour le SC, la colonne du SC. Alors là, bon, c'est vrai que je vous ai un peu aidé.
Voilà, mais c'était très bien. Alors, il y avait le mot 4 et 7.
Bon, le 4 pour 6. Hein, là, franchement, si on n'avait pas imprimé, hein, je pense que bon. Donc, le 4 pour 6 et le 7 pour la fameuse piscine où on reste longtemps dans la piscine. Ça fait piscine et on traîne un peu. Et c'est donc un S et un C. Eh ben, j'espère que vous avez tout bon, les enfants. Peut-être que vous avez eu un petit peu d'aide avec les parents pour faire les colonnes, etc. On peut refaire hein, cet exercice avec des colonnes. C'est très instructif, Marie-Christine.
Oui, et puis on peut trouver d'autres mots. Hein. Il y a plein de mots. Donc, les parents aussi peuvent refaire cet exercice en proposant d'autres mots.
Et plus on s'habitue à classer les sons, c'est-à-dire à les écouter, à les reconnaître, mieux on va savoir lire et écrire, ça c'est très important
oui,
de le redire.
Oui, ça c'est très 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 important. C'est un travail qui est lent, qui prend du temps, mais il faut le faire à ce rythme-là, parce que c'est comme ça que vraiment on apprend de manière très très sûre.
Vous avez raison de souligner le temps, la lenteur, parce que c'est ce qui fait qu'ensuite on va mémoriser durablement. Et donc il ne faut pas s'énerver parce que nous, c'est vrai qu'on sait lire, ça nous semble évident, mais pour les enfants, c'est quelque chose de totalement nouveau.
Non, mais c'est très 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 difficile et les adultes ne se rendent absolument pas compte de l'effort que l'on demande aux enfants. Et alors autre chose, il ne faut surtout pas se priver de répéter parce que c'est à force de répéter aussi que l'enfant finit par bien mémoriser les difficultés de la langue.
Et on peut refaire ce même exercice avec les colonnes, avec les mêmes sons, hein, les mêmes lettres, S, 2S, oui. C, etc., mais avec d'autres mots. Donc, petit à petit, on va finalement balayer comme ça et enrichir aussi son vocabulaire et sa reconnaissance de l'orthographe. Marie-Christine, maintenant on passe à une petite dictée. Alors très simple, hein, y a très peu de mots dans cette dictée.
Voilà, le garçon casse la scie.
Donc là, on a trois sons, trois sons.
Voilà.
Ce. Mais alors,
trois écritures du son ce. Alors, je vais épeler lentement chacun des mots pour que vous ayez le temps de les écrire. Alors, le, c'est l'article défini, L-E. Deuxième mot, garçon. G-A-R-C-C-D-O-N. Troisième mot, casse. C-A-2-S-E. Donc ça, c'est le verbe casser. Quatrième mot, la, l'article défini L-A. Et le cinquième mot, si, S-C-I-E.
Voilà, alors si vos enfants n'ont pas eu le temps d'écrire tous ces mots, vous pouvez les écrire à leur place, hein, les voisins, les voisines, et puis ensuite... Votre enfant peut refaire la dictée, il voit bien les mots qui sont photographiés dans son cerveau et ensuite il peut refaire cette petite dictée. C'est ça Marie-Christine, hein ?
Oui, oui, oui. Et alors comme je le disais lundi, les parents peuvent changer un mot ou en rajouter un. Par exemple, l'autre jour, on a utilisé l'adjectif de couleur grise. Moi, je suggère, par exemple, le garçon casse la scie grise. Donc, comme ça, l'enfant, comme il a déjà étudié le mot grise, il peut le réutiliser aujourd'hui.
Et on le redit bien aux parents, un mot par jour, c'est super. On arrive vraiment à des résultats intéressants. Un mot par jour, savoir écrire un mot par jour. On peut revoir des mots qu'on a déjà vus les autres jours. Et petit à petit, on enrichit son vocabulaire et sa connaissance de... l'écriture. Dites-nous, les voisins et les voisines, comment vos enfants continuent à apprendre par rapport à ce qu'on vient de faire. Dites-nous comment ça se passe chez vous. Et puis, vous pouvez aussi leur dire de nous envoyer des messages sur WhatsApp, des commentaires, si ça va trop vite, trop lentement. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71, uniquement le WhatsApp. Marie-Christine, on va vous retrouver vendredi. On fera complètement autre chose. On partira à la découverte du monde. Avant qu'on se quitte, Marie-Christine, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous savez que sur le site de RFI.fr, on peut perfectionner son français ?
Ah, je ne le savais pas parce que je n'avais pas tout regardé sur le site.
Alors, il y a le journal en français facile, bien sûr que connaissent bien les auditeurs. Il y a aussi le feuilleton bien connu aussi maintenant qui s'appelle le talisman brisé. Talisman, c'est un peu comme un gris-gris ou un fétiche. Hein. Mmh. Et c'est une histoire où il y a beaucoup d'action avec un héros qui s'appelle Kwame, qui est jardinier et qui justement, il va progresser en français finalement au fil des épisodes. Et ça peut être accessible à des enfants, on va dire, qui sont en fin d'école primaire. Et l'avantage, c'est que c'est une série qui est réalisée en bilingue. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous disent ça. C'est bien quand il y a une langue africaine, quand c'est bilingue, parce qu'évidemment, l'enfant, il parle une autre langue à la maison. Et là, c'est en 12 langues, notamment en Wolof.
Toplen Gestup Kwame, qui est le talisman brisé du Saint-Théâtre Radio Boubès pour Radio France Internationale.
Dès que l'on galaoule, ça charam gui joy.
Nous sommes sans nouvelles du professeur Sekou Bayal.
Mais stop !
Où est le professeur Omar ?
Quoi ? Je ne comprends pas.
Mingi xaar ni ku djop ku bax ki kay natala.
Mané ndax li bi dana ma sa doon deug. Kwame nak paré na ngir jaay bakanam, ngir lolu am. Waye nak dégul français. Ndax dana mëna am ndam.
Il faut faire attention, Kwame.
Voilà ! Mouk !
C'est toi, Kwame !
C'est pas moi !
C'est pas lui !
Faut que me dise professeur à Gala Djangou Damagi.
Le talisman brisé. 24 bi di Pierre Lamoussa ki ko teki ci wolof di Massamba Gueye ki def musique bi di Bako ki jox batam Kwame di Mustapha Mbou ki lepp le bi di Yaye Awa Eva Dramé ki ko réaliser di Raphaël Kousso andi ci ak Nicole Nazel.
Voilà, le talisman brisé, vous pouvez suivre Kwame dans son aventure, apprendre comme lui à communiquer en français. Et sachez que l'audio de chaque épisode est accompagné de la transcription d'un lexique, il y a des fiches explicatives et puis il y a même des exercices aussi qui sont associés à chaque épisode. C'est très simple, hein, pour retrouver le talisman brisé, vous tapez talisman brisé, RFI, vous arrivez directement sur la page. Marie-Christine Aubin, vous êtes toujours avec nous avant qu'on se quitte ?
Oui, je suis toujours avec vous.
Eh bien écoutez, ça va vous amuser parce qu'il y a des auditeurs là qui postent, qui réagissent en direct à tout ce que vous faites, tout ce que vous dites. Alors il y a un voisin qui a posté un virlang, il s'appelle Max Chikourou, et il a posté un virlang exactement avec le son « ce » comme on a étudié. Je vais vous le lire, je ne sais pas si vous le connaissez, il n'est pas évident. Hein. « Si 666 sangsues sont sur un sein, sans sucer du sang, toutes ces sangsues sont sans succès. »
Oui, je le connais.
Elle est pas mal, hein.
Oui. Elle est extraordinaire, hein.
Voilà, et puis il y a aussi Jonathan qui a posté « Sur le chemin, Suzanne siffle et son chien la suit sans cesse. »
Eh ben voilà.
Eh ben
alors
voilà.
Donc, il va y avoir plein de jeux à pratiquer.
Exactement.
À la maison.
Exactement. Et vous pouvez faire ces virelangues avec les enfants. Et je peux vous dire qu'on imprime très, très bien, du coup, ensuite, l'orthographe. À très, très bientôt. À vendredi, Marie-Christine Aubin.
À vendredi.
On vous souhaite une très belle journée confinée au village. Merci à vous. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, les voisins, les voisines, que sur WhatsApp, 33 1 84 22 71. 71, l'école à la radio, on peut apprendre partout, à tout moment. Il suffit finalement d'avoir les oreilles, les yeux ouverts. Et là, on va décoller bientôt vers un autre monde avec une histoire racontée aux enfants et aux plus grands. Ça sera juste après Pongo.
Sou a dama da zona rabuda que manda no requebrar. A crioula que boia te ama, te beija, faz viajar.
Écoute cela par Pongo, vous êtes bien chez 7 milliards de voisins, nouvelle formule, l'école à la radio, on est tous ensemble et tous confinés. Et maintenant, le temps d'une histoire racontée par la voix d'Héloïse Auria, mise en onde Romain Dubrac. Yen et le festin du roi, c'est un conte du Mali qu'on retrouve dans les contes des quatre vents de Josiane Gréau aux éditions L'Harmattan.
Il était une fois
Yen et le festin du roi. Une histoire de Josiane Gréau. Lion vient d'être élu roi des animaux. Pour fêter son couronnement, il organise un grand festin où il invite tous les animaux de la brousse. Chacun se fait tout beau et tout propre pour se rendre au repas du roi. Girafe a accroché de nombreux nœuds papillons tout au long de son cou. Elle est très élégante. Zèbre a mis une paire de lunettes noires. Un peu snob, vous ne trouvez pas ? L'éléphant a coincé une fleur sur son oreille. C'est vraiment trop mignon. Ils ont déjà commencé à manger quand Yen arrive. Personne ne l'a vu arriver, mais tout le monde l'a senti. Parce qu'elle pue. Tout simplement, c'est une infection.
Comment oses-tu te présenter devant moi aussi sale ? Demande Lion. Va te laver. Et ne reviens que lorsque tu seras propre.
Yen s'en va. Elle n'a pas du tout envie de se laver. Alors vite, elle court jusqu'à une clairière où il y a des fleurs odorantes. Elle se roule dedans, se frotte sous les pattes et derrière les oreilles. Puis, elle mâche quelques pétales pour avoir bonne haleine. Elle retourne voir le roi. Croyez-vous que la bonne odeur des fleurs cache sa puanteur ? Non, c'est encore pire, c'est écœurant.
Et en plus, tu me prends pour un idiot ? Rugit le roi. Va te laver avant que je me mette en colère.
Comment se laver sans aller à la rivière ? Yen a une idée. Au Mali, il ne pleut pas beaucoup. Les villageois creusent un grand trou dans le sol jusqu'à trouver de l'eau, un puits. Ils déposent ensuite des pierres plates tout autour pour construire la margelle. Quand les femmes viennent chercher de l'eau, elles retirent leurs chaussures et nettoient leur seau pour ne pas la polluer. Sinon, personne ne pourra la boire. À votre avis, est-ce que Yen se lave les pattes pour monter sur la margelle ? Non. Elle trempe son nez dégoûtant dans l'eau et fait tomber de la boue de ses pattes. Heureusement, des enfants l'aperçoivent. Ils la chassent en lui lançant des pierres et des bâtons. Yen s'enfuit. Et c'est en sueur qu'elle arrive devant le roi. Le roi, très en colère, rugit.
Si tu reviens encore toute dégoûtante, c'est toi qu'on mangera.
Yen a très peur. Elle n'a plus qu'une solution, aller se laver dans la mare. Là, elle trempe une patte.
C'est froid.
Puis une autre.
Ça mouille.
Hop, elle saute tout entière. Hé, ce n'est pas si désagréable. Et l'eau qui glisse sur ses poils fait partir toutes ses puces. Elle court jusque chez le roi. Malheureusement, tous les invités sont partis. Sauf Lion, qui lui dit
« Mange les restes !»
Et c'est depuis ce jour que Yen mange les restes des autres animaux.
Tous les jours à la même heure du lundi au vendredi, une histoire racontée avec la voix d'Élise Oreilla et la mise en onde de Romain Dubrac.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Et c'est vrai qu'on est ensemble, je me sens pas du tout seule dans le studio parce que vous n'arrêtez pas de nous poster des messages. 7 milliards de voisins et de voisines, l'école à la radio. Cédi nous a posté le message, Emmanuel, j'ai acheté mon cahier et depuis je suis tous les cours malgré mon âge, j'attends impatiemment le jour de l'examen. Bon évidemment, vous ramenez quand même, j'espère, les petits frères et les petites sœurs, que tout le monde en profite, surtout ceux qui sont déscolarisés. J'ai donné les chiffres en début d'émission, ça fait froid dans le dos, il n'y a pas une minute à perdre, il faut vraiment être à l'écoute chez nous et puis poursuivre le travail tout au long de la journée. L'école à la radio, c'est aussi pour une génération apprenante, quels que soient les âges. Et aujourd'hui, une nouvelle chronique avec Sylvia Serbin. Bonjour Sylvia.
Bonjour Emmanuel.
Sylvia Serbin, vous avez publié « Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire » aux éditions Medunetter. Et vous nous proposez, à partir d'aujourd'hui, chaque semaine, de revenir sur ces histoires de femmes finalement trop peu connues de l'histoire du continent, oui c'est bien ça, de l'Afrique. Oui. On commence par qui aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, pour ce premier rendez-vous, j'aimerais bien vous proposer un tableau collectif. C'est celui des Amazones de l'ancien royaume du Dahomey, le Bénin d'aujourd'hui. Alors pourquoi ? C'est parce que cet exemple nous démontre que contrairement aux idées reçues et aux clichés véhiculés sur leur prétendu effacement, beaucoup de femmes africaines se sont investies dans les combats de leur société et on en a beaucoup d'exemples aussi à travers l'histoire. Alors je vais vous présenter rapidement peut-être ce corps entre le XVIIe et le XIXe siècle. Les Amazones ont constitué un corps d'élite de guerrières et ça a été le plus célèbre exemple d'armée féminine dans l'histoire militaire. Alors elles ont inspiré autant d'admiration pour leur courage que de terreur, car on disait qu'elles ne laissaient jamais un ennemi blessé dans leur sillage.
Et elles étaient organisées de quelle manière finalement ?
Alors c'était une armée très sérieuse, hein, parce qu'elle comptait un effectif d'environ 4000 combattantes entraînées à résister à la faim, à la soif. Elles étaient organisées en escadrons très disciplinés qui occupaient toujours les premières lignes de combat. Et puis elles portaient souvent le crâne rasé, comme ça on ne pouvait pas facilement les reconnaître hein, dans l'armée. Et elles étaient réparties en 5 régiments avec des uniformes et des équipements distincts. Et puis elles avaient aussi leur propre général et officier féminin parce que des hommes ne pouvaient pas commander de telles femmes. Mmh. Alors parmi elles, on trouvait des archères qui tiraient des flèches empoisonnées, des fusillères chargées des armes à feu, des éclaireuses, des artilleuses pour les canons et pièces d'artillerie, et enfin des fauceuses qui étaient la terreur des ennemis parce qu'elles maniaient un long rasoir qui pouvait couper un être humain en deux par la taille.
Ah ben c'est charmant. Et, voilà. Et leurs faits d'armes sont réels ?
Ah oui, tout à fait, et très connus. L'ancien royaume du Dahomey était effectivement une entité guerrière et tentait souvent d'attaquer des territoires voisins dont il convoitait les richesses. Ou bien il cherchait à s'imposer dans des zones stratégiques, notamment en zone côtière, où se faisait le commerce avec les comptoirs européens. Mmh. Voilà. Donc il y a de nombreux récits qui rappellent les actes d'héroïsme des Amazones dans ces différentes confrontations, où elle faisait preuve d'un extraordinaire sens du sacrifice. Alors, il y a deux exemples que je vais vous donner. C'était notamment le cas lors du premier siège d'Abeokuta dans le Nigeria actuel, en 1851, où plus d'un millier d'Amazones a péri sur le champ de bataille.
Et il est très connu d'ailleurs ce siège.
Hein. Oui, tout à fait. Et puis, il y a aussi leur dernier combat qui a été mené en 1892 à Abomey, la capitale du royaume, contre les forces françaises venues annexer le Dahomey.
Aujourd'hui, quelle est encore la place finalement de ces Amazones du Dahomey dans les traditions orales, Sylvia Serbin ?
Alors les Amazones représentent quand même un objet de fierté dans la mémoire collective et souvent dans certaines familles d'aujourd'hui, ils sont très fiers de dire que parmi telle arrière-grand-mère, tel ancêtre, la famille a compté une Amazone. Mmh. Mais il y a quand même des anecdotes qui sont assez amusantes, qui sont restées donc dans les traditions populaires. On raconte par exemple que lorsqu'il fallait lever des troupes en prévision d'une campagne militaire, certains hommes dont les épouses avaient un caractère plutôt acariâtre ou étaient trop dominatrices allaient discrètement trouver le roi pour les faire enrôler d'office dans un régiment d'Amazone. Et comme elle n'avait pas le droit de refuser, c'était pour ces messieurs une façon de se débarrasser à bon compte d'une épouse en disgrâce.
Ah oui, c'est quand même assez terrible. Alors... c'est un divorce violent, là, on va dire.
Voilà, tout à fait. Alors, il y a une autre petite anecdote qui circule beaucoup, surtout chez les vieilles personnes qui nous racontent en rigolant. Alors, même si c'était des femmes hors du commun, certaines devaient être vraiment très jolies parce qu'elles attiraient la convoitise des hommes. Or, le camp des Amazones se trouvait dans l'enceinte du palais et les hommes n'avaient pas le droit de s'en approcher. Là aussi, on raconte que beaucoup d'hommes sont morts en tentant d'escalader de nuit le mur d'enceinte du camp des Amazones. Car ils avaient été surpris par la garde royale. Et là, la sanction, c'était la mort.
Ah oui. Mais on peut, ceci dit, imaginer que ces femmes, là, pour le coup, savaient, étaient en mesure de se défendre extrêmement bien contre les violences sexuelles, hein, j'imagine. Vu ce que vous avez décrit, vu leur armement, vu leur capacité militaire.
C'était des femmes de caractère. Hein, donc, c'est pour ça que... donc elles étaient, c'est vraiment un modèle de femme qui est loin de l'effacement, de la résignation. Hein. Ça, il faut dire que, d'ailleurs aujourd'hui, dans le langage populaire, quand on dit d'une femme c'est une vraie Amazone, oui. Ça veut tout dire. Hein. Oui. Elle a le caractère, elle a l'entre-jean, elle a l'ambition, voilà, toutes ces femmes... qui réussit toute seule, on dit, c'est une Amazone.
Oui. Alors c'est vrai que je disais au début de l'émission que vous allez nous raconter des parcours de femmes souvent mal connues de l'histoire du continent. C'est vrai que les Amazones sont quand même assez connues, mais on n'est pas finalement si au courant de ça, des réelles actions militaires et de leur poids aussi militaire dans les guerres, dans les conflits, etc.
Oui, enfin bon, y a des archives militaires européennes qui parlent beaucoup des Amazones. Elles ont suscité déjà au XVIIIe, au XIXe siècle, beaucoup de littérature de voyageurs ou d'explorateurs qui ont traversé le royaume du Dahomey à l'époque et qui étaient fascinés ou terrifiés par ces Amazones dont ils voyaient les entraînements. Mmh. Donc on en a beaucoup parlé à un certain moment. Et ensuite, ça s'est un peu dilué, mais on trouve... elles sont toujours présentes, en tout cas, dans les grandes batailles de l'ancien royaume du Dahomey.
Merci beaucoup, Sylvia Serbin. Je précise qu'à la fin de votre livre « Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire » aux éditions Medunetter, on peut retrouver d'ailleurs toute une liste d'ouvrages historiques, puisque vous parliez des références des archives. Il y a une liste d'ouvrages historiques universitaires, une liste d'archives dans lesquelles vous avez puisé pour raconter les parcours
travail,
de ces
oui.
femmes. Ouais. Des récits de voyageurs de l'époque aussi. Et
voilà.
On se retrouvera la semaine prochaine, Sylvia Serbin. Alors là, ça sera l'histoire d'une seule femme hein, qui a vécu au Moyen-Âge entre l'Afrique et l'Europe. On va juste en dire un tout petit mot, Sylvia.
Oui, bien sûr. Alors, j'ai voulu parler aussi de parcours un peu singulier. Et là, il s'agit d'une jeune femme originaire de la ville de Gao au Mali, qui a vécu au 15e siècle. C'était une intellectuelle avant l'heure, puisqu'elle était... parfaitement, elle avait reçu une éducation de haut niveau en arabe, elle lisait beaucoup et elle est tombée amoureuse d'un jeune explorateur français. On pense que c'est le premier européen à être arrivé dans cette région à cette époque. Ils se sont mariés et puis je vous raconterai la suite la prochaine fois.
Ouais, et puis alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on découvre quand même qu'au Moyen-Âge, bah, finalement, on bougeait beaucoup plus qu'au temps du coronavirus.
Oui, c'est surprenant, hein oui, parce qu'il y avait le commerce.
C'est ça, les frontières étaient ouvertes.
Voilà, les caravanes du commerce transsaharien et qui constituaient aussi des axes qui étaient notre TGV. De l'époque, voilà.
Merci à vous, Sylvia Serbin. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci à vous tous, les voisins et les voisines, pour tous vos messages. On continue, bien sûr, d'accueillir vos suggestions, d'accueillir vos questions, vos réactions. 33 1 84 22 71 71. Merci aussi à tous les contributeurs de cette émission. Demain, suite de l'école à la radio. Il y aura bien sûr aussi une histoire racontée aux enfants pour rêver, pour apprendre de nouveaux mots. Il faut sauver Hainaut. C'est l'histoire de Jacqueline David à la collection Planète J'aime lire chez Bayard Afrique. Et puis on refera des problèmes de mathématiques. Donc là aussi, vous pourrez réagir et puis nous envoyer vos problèmes ou vos solutions, ce que vous avez trouvé de la dernière séquence. Et on apprendra aussi beaucoup de notions, ça sera la semaine prochaine, beaucoup de notions de géométrie. Voilà, je vous ai donné déjà quelques avant-goûts. À demain.